Il est 12h30 et le journal vous est présenté par Camille Magnard. Bonjour.
Bonjour à tous. La France va mettre sa menace à exécution dans le dossier des chantiers navals STX. Bercy veut nationaliser plutôt que de laisser le contrôle aux Italiens de Fincantieri. Nous entendons les explications de Fiona Mogadam et la réaction à Saint-Nazaire du délégué CFDT Christophe Morel. La France qui accueille sa part de réfugiés et qui dissuade les migrants économiques. Emmanuel Macron est à Orléans pour fixer la ligne en matière de politique migratoire. C'est un déplacement suivi pour nous par Ilan Malka. C'est légal, mais est-ce bien moral? La ministre du Travail Muriel Pénicaud, épinglée par le journal L'Humanité pour avoir empoché plus d'1 million d'euros de stock options juste après un plan social chez Danone où elle était DRH. Un récit à suivre de Lise Verbeck. Avec Étienne Monin, nous irons à Jérusalem sur l'esplanade des mosquées où les Palestiniens feront un retour victorieux cet après-midi après une semaine de boycott. Et puis midi 45, le dernier endroit où l'on cause, la grande table d'été, Martin Canéen.
Et oui Camille, et ben à l'instar de votre sommaire, hein, on sera aussi dans le roman noir avec un essai noir, frais de signé Denis Cosnard, et un roman noir comme Les ennuis du héros de Adieu Lily Marlène, du romancier Christian Roux.
À tout à l'heure. La France s'apprêterait donc à nationaliser les chantiers navals de Saint-Nazaire. C'est en tout cas ce que croit savoir le journal Le Monde et c'est ce que devrait confirmer à 15h tout à l'heure le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Paris qui précipite donc l'annonce sans attendre la fin de cet ultimatum qui avait été lancé à l'Italie, car c'est bien une société publique italienne, Fincantieri, qui devait prendre le contrôle des chantiers cédés par le coréen STX. Mais depuis quelques jours, Bercy, on le sait, s'opposait à cette transaction, voulait s'assurer que la France garderait 50% des part. Question, nous disait-on, de souveraineté économique. Bonjour Fiona Mogadam.
Bonjour.
Plutôt que de laisser les chantiers à l'Italie, donc Paris préfère racheter toutes les parts, une sorte de nationalisation d'urgence et une décision qui semble pour le moins précipitée.
Précipitée, mais en même temps le gouvernement n'avait pas le choix puisque le délai pour exercer son droit de préemption arrivait à terme. L'État avait jusqu'au 29 juillet pour ça, c'est après-demain. Et dans toutes les déclarations qu'ont pu faire les Italiens ces derniers jours, rien ne semblait indiquer une volonté de revenir sur l'accord trouvé en avril. L'Italie n'a aucune intention d'aller de l'avant si les conditions qu'elle a posées ne sont pas respectées, a par exemple déclaré hier le ministre du développement économique en Italie. Comme condition, Fincantieri devait conserver la majorité au capital de STX, même une faible majorité était suffisante, et contrôler le conseil d'administration. La France, elle, proposait donc un partage à 50-50 des parts entre les deux pays. Quant à l'accord initial, Fincantieri devait acquérir 48% des parts de STX, en soi ce n'est pas la majorité. Mais un montage prévoyait qu'une fondation italienne détienne 7% des parts, ce qui permettait donc à l'Italie d'avoir la majorité et c'est ce qui inquiétait le gouvernement. On rappelle que Fincantieri d'ailleurs est un groupe public. Alors ce qui va se passer à présent, c'est que l'État devrait racheter l'ensemble des parts de STX, mais c'est temporaire. L'État ne veut pas devenir le propriétaire des chantiers navals. Ce rachat va donc permettre au gouvernement de gagner du temps pour cette fois trouver de nouveaux acquéreurs qui, eux, répondront aux critères fixés.
Fiona Mogadam, voilà pour les enjeux du dossier qui sont posés. Nous allons voir à présent comment on prend cette nouvelle du côté de Saint-Nazaire. En ligne avec nous, Christophe Morel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué CFDT sur les chantiers navals. On semble donc s'acheminer, on attendra la confirmation du ministre Bruno Le Maire à 15h, on s'achemine, il semblerait bien, via un droit de préemption donc exercé par l'État pour prendre 100% des parts de votre entreprise. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les salariés selon vous ?
C'est avant tout un constat d'échec, comme quoi il n'a pas été possible de trouver un accord avec les Italiens dans quelque chose qui nous paraissait à nous CFDT équilibré entre l'Italie et la France, hein, puisque Fincantieri devait détenir 50% et l'État, des CNS et les salariés devaient détenir les autres 50%.
Ça, c'est ce qu'aurait voulu Bercy là tout dernièrement.
Tout à fait, c'est ce qui nous allait plutôt bien comme proposition. Hein. Bon, maintenant, on voit que les Italiens voulaient absolument la majorité absolue, donc d'où ce constat d'échec.
Alors, les Italiens devaient avoir la majorité absolue, c'est ce qui avait été négocié avec le précédent pouvoir sous François Hollande. C'est quoi le problème réellement à ce que les Italiens prennent la majorité, sachant que STX, le Sud-Coréen, avant cela, si je ne m'abuse, avait une majorité également ?
Oui, tout à fait. Mais quand STX nous avait racheté, on n'était pas du tout dans la même situation et STX n'était pas notre concurrent direct dans le marché des paquebots. Fincantieri est un concurrent direct. Donc ça pose des questions sur tout un tas de choses, sur la pérennité de certains services, de certaines activités. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation que lorsqu'on avait été repris par STX.
Et donc, la priorité, c'était de garder en tout cas une majorité, en tout cas 50% des parts pour la France. Qu'est-ce qui va se passer à présent si donc Bruno Le Maire confirme tout à l'heure que l'État nationalise en tout cas temporairement?
Ben oui, donc il y aura effectivement une nationalisation temporaire. Après, le problème, c'est la durée de ce temporaire. Est-ce qu'on va encore parler de mois ou est-ce qu'on va encore parler d'années, hein? Il a fallu 3 ans pour arriver au processus et à l'échec du processus avec Fincantieri quasiment. Donc, est-ce qu'on va parler en mois ou en années? Et surtout, qui est-ce qui va revenir autour de la table?
Alors, c'était ma prochaine question. Voilà. Est-ce qu'on risque pas de se retrouver avec un actionnaire étranger qui pourrait être potentiellement plus dangereux que les Italiens de Fincantieri?
C'est fort possible, hein. Ils ne se sont pas bousculés, on va dire, pour au moment où Séoul avait mis STX France en vente, il y a que Fincantieri qui avait proposé une offre. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en aura d'autres à venir faire une nouvelle offre? Il faut savoir qu'au-delà du nom du futur actionnaire ou des futurs actionnaires, nous, ce qui nous importe, c'est leur capacité à nous accompagner, hein, dans notre développement. On a besoin d'investir sur le site, dans les moyens et dans les hommes. Il faut aussi soutenir les affaires qui sont en cours. Il faut avoir les reins suffisamment solides pour cautionner des emprunts qui représentent des milliards d'euros. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important et on va dire que l'envergure d'un ou des futurs actionnaires, elle est très importante pour l'avenir de l'entreprise et sa pérennité.
Voilà, merci beaucoup Christophe Morel donc d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous êtes représentant syndical CFDT sur ces chantiers navals de Saint-Nazaire. Et j'ajoute cette réaction du président Les Républicains de la région Pays de la Loire, Bruno Retailleau, qui appuie le gouvernement dans sa volonté d'empêcher une majorité de blocage italienne sur les chantiers navals. Emmanuel Macron qui tente de reprendre la main sur l'accueil des réfugiés en France après la séquence d'hier où l'ONG Human Rights Watch dénonçait l'enfer, selon elle, que font vivre certains policiers et CRS aux migrants de Calais. Le président de la République est à Orléans depuis quelques heures. Il a visité un centre d'hébergement de réfugiés. Il a participé à une cérémonie de naturalisation. C'est un déplacement que vous suivez pour nous. Ilan Malka, bonjour.
Bonjour Camille.
À Orléans, donc, on met l'accent, on le voit, sur les aspects positifs de l'accueil à la française.
Oui, alors l'idée c'est effectivement de donner de la France une image d'humanisme et en même temps de fermeté. Pour ce qui est de l'humanisme, Emmanuel Macron a donc rencontré ce matin 2 familles abritées par un centre provisoire d'hébergement, une famille congolaise et une famille syrienne. Il a également assisté ce matin à la naturalisation de 37 personnes originaires de 21 pays différents. Bienvenue dans la République, leur a-t-il dit, saluant leurs efforts d'intégration, d'apprentissage de la langue. La France doit jouer son rôle pour les demandeurs d'asile, pour tous ceux dont la vie est en danger, a déclaré le président de la République. C'est un défi moral civilisé. Mais, et c'est là qu'on en arrive à la fermeté, il y a aussi, affirme-t-il, parmi les migrants, des gens qui ne viennent en France que pour des raisons économiques et qui nourrissent parfois même le grand banditisme. Il appelle à être rigoureux et intraitable face à cela et il faut pour cela travailler au niveau européen. Il faut notamment, dit Emmanuel Macron, harmoniser la politique migratoire de la France avec celle de l'Allemagne. Il faut pouvoir assouplir les accords de Schengen, pouvoir les adapter en cas de crise migratoire. Il faut également traiter les demandes d'asile depuis l'endroit où elles arrivent, par exemple en envoyant des missions de l'OFPRA sur les lieux d'où viennent les migrants, où arrivent les migrants. Emmanuel Macron a cité le cas de l'Italie.
Ilan Malka, merci à vous, donc en direct d'Orléans, avec les moyens techniques de Jean-Marie Porcher. Emmanuel Macron, vous l'évoquiez à l'instant, qui, en marge de cette visite à Orléans, a annoncé que la France va créer des hotspots, ces centres où sont examinées les demandes d'asile des migrants, directement sur le territoire libyen. Ce serait une première mise en place dès cet été, donc selon le chef de l'État, une conséquence directe de l'accord conclu mardi à l'initiative du président français entre les 2 leaders ennemis de Libye, le général Haftar et le premier ministre Al-Sarraj. Des révélations embarrassantes à présent pour Muriel Pénicaud en pleine négociation sur la nouvelle réforme du Code du Travail. C'est le journal L'Humanité qui affirme ce matin que lorsqu'elle était directrice générale des ressources humaines du groupe Danone, ça remonte à 2013, l'actuelle ministre du Travail aurait réalisé une grosse plus-value en revendant ses stocks options. Bonjour Lise Verbeek.
Bonjour.
Une plus-value à hauteur de plus d'1 million d'euros faite selon L'Humanité sur le dos de salariés licenciés.
Alors L'Humanité a épluché les comptes officielle de Danone en 2013. Muriel Pénicaud, qui est dans l'entreprise depuis 5 ans, acquiert cette année-là des stock options pour un prix fixé quelques années auparavant, juste après l'effondrement des valeurs boursières du CAC 40. L'action de Danone a à ce moment-là perdu la moitié de sa valeur. En 2013, donc, Muriel Pénicaud paye ses stock options à environ 35 euros l'unité. Et ce, dans un contexte particulier, quelques semaines avant, Danone a annoncé un dégraissement de ses effectifs et prévoit de supprimer 900 postes en Europe. Cette annonce a eu un effet immédiat en bourse, salué par les marchés financiers. Le titre a fait un bond de presque 5%. La ministre du Travail revend alors ses actions et réalise une plus-value d'1 129 000 euros. Une pratique qui est totalement légale et courante, selon plusieurs économistes contactés. Mais c'est la question de la moralité qui est ici soulevée pour Muriel Pénicaud, qui quelques années plus tard devient ministre du Travail. Elle a profité de l'envolée du titre de Danone juste après l'annonce d'un plan social dans une entreprise qui plus est n'était pas en crise mais qui souhaitait à l'époque se restructurer pour accélérer sa croissance. Ces révélations embarrassantes du journal L'Humanité s'ajoutent à une autre affaire qui touche la ministre, celle de Business France, l'organisme qu'elle dirigeait et qui a organisé en janvier 2016 une soirée à Las Vegas autour d'Emmanuel Macron. Business France, qui dépend de Bercy, est soupçonnée par la justice d'avoir enfreint la réglementation sur les marchés publics en ne lançant pas d'appel d'offres pour cet événement. Muriel Pénicaud nie avoir été au courant. Une enquête préliminaire est en cours au parquet de Paris pour favoritisme, complicité et recel de favoritisme.
Lise Verbeck, merci. Et pendant ce temps, l'examen des lois de moralisation de la vie publique se poursuit à l'Assemblée nationale. Ce matin, les députés ont adopté l'interdiction pour les parlementaires d'employer des membres de leur famille comme collaborateurs. Ils en avaient fait de même hier pour les membres du gouvernement. Et il s'agissait, selon la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, de rendre impossible ces pratiques moralement choquantes mais tolérées jusque-là, comme l'avait prouvé l'affaire Fillon. Les fidèles musulmans vont faire leur retour sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. Les autorités religieuses et le président palestinien Mahmoud Abbas ont appelé ce matin les croyants à retourner prier à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, le lieu saint qu'ils boycottaient depuis maintenant une semaine. C'était, on s'en souvient, pour protester contre Israël qui avait imposé des mesures de sécurité renforcées. Étienne Monin est sur place pour France Culture.
Devant la Porte des Lions, devenue le lieu symbolique de cette action de résistance, des centaines de Palestiniens préparent leur entrée sur l'esplanade des mosquées annoncée pour la prière de l'après-midi. Ce retour devrait être solennel. Les Palestiniens ici souhaitent qu'il soit ouvert par les parents des jeunes qui ont été tués dans les affrontements à Jérusalem vendredi dernier et samedi dernier, et par les autorités religieuses qui ont mené de bout en bout les prières de rue. Les Palestiniens ont le sentiment d'avoir remporté une victoire. Les autorités religieuses estiment être revenus à la situation d'avant la crise. Et les fidèles soulignent qu'ils ont obtenu ce résultat grâce à un mouvement populaire digne, disent-ils, des années 2000, au début de la deuxième intifada. Devant la Porte des Lions, il y a encore beaucoup de policiers israéliens, mais il n'y a plus de détecteurs de métaux et les arceaux métalliques qui supportaient la vidéosurveillance ont disparu.
Étienne Monin à Jérusalem. Après la France, le Royaume-Uni qui annonce l'interdiction des moteurs thermiques, essence ou diesel à l'horizon 2040. Voilà des mesures fortes pour lutter contre le réchauffement climatique. Des mesures qui n'ont pas l'air vraiment d'actualité en Allemagne. Là-bas pourtant, les remises en cause du secteur automobile ne manquent pas entre le Dieselgate et désormais un nouveau scandale sur un cartel constitué par tous les grands constructeurs d'outre-Rhin. La ministre des Transports allemand doit faire une déclaration tout à l'heure sur le sujet du diesel, mais pour l'heure, il n'est pas du tout sûr. En tout cas, il est sûr que Berlin ne rejoindra pas Paris et Londres, Pascal Thibault.
Une interdiction des véhicules diesel ou à essence n'est pas à l'ordre du jour. Hier, une porte-parole d'Angela Merkel rejetait une mesure similaire à celle que vient d'annoncer la Grande-Bretagne après la France. Et pourtant, la pression monte toujours plus pour l'industrie automobile allemande. Le scandale révélé il y a quelques jours sur une entente entre 5 grands constructeurs sur la durée et sur de nombreux aspects techniques égratigne encore plus l'image d'un secteur central pour l'économie allemande. Cette entente concernait également les émissions polluantes des moteurs diesel, sous le feu des critiques depuis la révélation il y a 2 ans de l'existence de logiciels truqués chez Volkswagen, réduisant artificiellement ses émissions. Les constructeurs qui rencontreront le gouvernement allemand la semaine prochaine pour un sommet sur le diesel proposent à leurs frais une actualisation des logiciels équipant leurs moteurs afin d'en réduire les émissions. Mais les organisations de défense de l'environnement, comme Greenpeace ou la Fédération des villes allemandes, évoquent des mesures placebo. Leur confiance dans les constructeurs est affaiblie. Ces voix critiques réclament un tournant radical auquel ni les industriels ni le gouvernement ne sont prêts. Mais les chiffres montrent que les consommateurs inquiets achètent en moindre nombre des voitures diesel. Les conséquences juridiques du récent scandale pourraient être à terme douloureuses pour les constructeurs avec des amendes sévères. Et depuis quelques jours, leur cotation en bourse a souffert. Daimler a ainsi perdu 5 milliards d'euros de sa valeur en moins d'une semaine.
Pascal Thibault à Berlin pour France Culture. Côté météo, les pluies s'évacuent progressivement par le nord-est de la France, laissent place à de belles éclaircies, voire un franc soleil autour de la Méditerranée. 29 degrés cet après-midi à Perpignan, 26 à Lyon et Toulouse, 21 pour Clermont-Ferrand comme pour Paris et pas plus de 18 degrés autour de la Manche. Merci à François-Charles Domergue qui a réalisé ce journal. Je vous retrouve à 18h.